Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est une musique qui s'écoute et se joue à plein volume. Un dérivé du rock boudé par les radios commerciales dont les têtes d'affiche comptent pourtant parmi les plus grands groupes de la planète. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le heavy metal, de Black Sabbath à Metallica, de Motorhead à Pantera.
On dirait plus c'est fort, plus le monde embarque. Même show de Judas Priest au Colisée, là, à un moment donné, là, c'était 2 dB plus fort qu'un 747 qui aurait décollé. C'est vraiment exagéré un peu, là, mais c'est ça qui fait que le monde embarque vraiment.
Un extrait de l'émission Contre-champ à notre télé le 23 novembre 1983. Ils sont là par milliers, vestes de cuir et cheveux longs, la tête bougeant dans tous les sens, au son d'une musique qui n'a rien perdu de son intensité depuis plus de 50 ans. Heavy, trash, glam, speed. Le métal se décline de multiples façons. Mais peu importe le style, les métalleux forment une communauté tissée serrée, des passionnés, loyaux, fidèles et intenses.
Iron Maiden est un groupe britannique de rock heavy metal parmi les plus connus au monde. Son nom est inspiré d'un instrument de torture du Moyen Âge, la Vierge de Fer. Iron Maiden, comme tous les groupes du genre, est une véritable usine mobile. 5 camions, 2 autobus, 30 employés, 500 000 watts d'éclairage et des tonnes de matériel. En 8 mois, Iron Maiden donne 200 spectacles dans 15 pays sur 4 continents. Plus d'un million de jeunes auront assisté à leur spectacle intitulé « Peace of Mind » ou encore « Un morceau de cerveau ». Les équipements sont lourds, puissants, sophistiqués. Du métal, il y en a partout. Il faut même une journée à 30 techniciens pour monter la scène. Les amateurs exigent des effets visuels spectaculaires et un son toujours plus puissant. Le heavy metal rock porte bien son nom. Plus c'est lourd, plus c'est fort, mieux c'est. La musique est simple, dure, primaire. Et il ne faut surtout pas chercher la mélodie.
La journaliste Anne-Marie Dussault au Colisée de Québec pour un concert d'Iron Maiden. C'était en 1983. Pour nous raconter les origines du métal et son évolution, mon invitée, Mira Saint-Laurent, elle est musicologue, présidente de la Société québécoise de recherche en musique, chroniqueuse musicale pour Ars Media, spécialiste du métal. Et sa thèse portait justement sur le black metal au Québec. Bonjour, merci d'être là.
Merci, bonjour.
Bon, d'abord le heavy metal, hein, mais il y a aussi le black metal, le speed, le glam. On s'y perd un peu. Alors, c'est quoi le heavy metal?
Bien, d'abord, le heavy metal est apparu dès le début des années 1970 en Grande-Bretagne. Pour plusieurs journalistes, fans de métal ou même universitaires qui étudient le métal, le premier groupe, c'est Black Sabbath, qui est arrivé là, en Grande-Bretagne au début des années 1970. Et en fait, le heavy metal, c'est une musique qu'on va souvent qualifiée de transgressive, donc qui veut déranger le plus possible de toutes les manières possibles. Et ça découle du blues amplifié. Et ça va se radicaliser avec les années, là, de plus en plus. Ça va inclure plein d'éléments, on va dire, punk, hardcore, même propre à la musique progressive ou rock progressif, à la musique traditionnelle ou même à la musique classique, là.
Oui. Donc, c'est... Parce qu'il faut repousser les limites chaque fois, donc le métal évolue. Mais si je comprends bien, le heavy, ça regroupe un peu tout ça, les différents styles.
Bien, en fait, c'est plus complexe que ça. Mm-hmm. Le heavy metal, souvent aujourd'hui, quand on va utiliser ce mot-là, ça va servir à qualifier les premiers groupes.
Ah oui, OK.
Donc, de la première, on va dire, de la première génération, là, mm-hmm. les groupes des années 1970-1980. Donc, les premiers groupes, on va souvent les qualifier de heavy metal. Mais aujourd'hui, on va plus parler de musique métal parce que ça englobe tous les courants, les sous-genres, les styles.
Oui. Et revenons aux origines. Vous avez dit donc c'est né en Angleterre. Ça vient d'où le métal? Est-ce qu'on peut mettre un nom, un lieu, une origine à ça?
Oui. En fait, ça vient de la ville de Birmingham, qui est au centre de l'Angleterre, dans les Midlands. Donc, dans les années 1960, début des années 1970, il y a un climat économique très difficile dans cette ville-là, qui est une ville industrielle, mm-hmm. et on parle à ce moment-là de désindustrialisation. Donc, les industries ferment vont pour ouvrir dans des endroits où est-ce que les réglementations sont moins sévères. Et il y a plein de jeunes, d'adultes qui perdent leur emploi. Donc, ça crée un climat économique extrêmement précaire, des perspectives futures pas très enviables. Et là, dans ce climat-là, va naître cette musique-là qui est très lourde, qui reflète un peu qu'est-ce que les gens vivent.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le Royaume-Uni en crise des années 70 qui va
exact.
Donner aussi naissance au punk hein, plus tard, quand on dit la oui. génération No Future. Donc, oui, un pays en pleine crise économique, une ville ouvrière également. D'ailleurs, quand on dit heavy metal, comment ça vient d'où le nom? Un métal lourd?
Bien, c'est comme tous les noms de courants, mm-hmm. on a toujours de la misère à mettre un doigt
oui,
sur
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Bon. Hein? Ouais.
Donc, il y a différentes origines. Celui que j'ai retenu, ça viendrait du groupe Steppenwolf, qui est un groupe canadien, si je ne m'abuse.
Mm-hmm. Oui, me semble, en tout cas. Oui.
Qui avait créé une chanson et dans la chanson, il disait « Heavy Metal Thunder ». Dans ah, la oui. chanson, c'est quoi « Born to be Wild mm-hmm. ». Donc, ça viendrait peut-être de là.
Donc, une origine canadienne peut-être, hein, pour désigner un courant qui vient du Royaume-Uni. Mais bon, ça reste, c'est difficile, comme vous dites, de mettre le doigt dessus.
Exact, oui.
Donc, ce son-là se développe à partir du rock, du blues, un peu ça. Hein, c'est comme une espèce de dérivé du rock ou une progression, si on veut.
Oui, exactement. Quand on écoute les premiers albums, là, par exemple, de Black Sabbath ou même de Judas Priest, on sent vraiment le son blues est là. C'est un blues amplifié. Mm-hmm. Donc, la gamme blues est toujours là. La structure musicale avec la progression harmonique qui suit vraiment le blues. La seule chose qui est différente, c'est qu'on habille ça avec des atmosphères extrêmement lugubres, comme par exemple l'album Black Sabbath, le premier
oui,
album
oui.
de Black Sabbath, s'ouvre avec de la pluie qui tombe, des sons de cloches, d'église. Donc, ça donne une atmosphère complètement différente. Là. C'est sûr que les sujets aussi, on parle du diable, de mm-hmm. la noirceur...
Oui, c'est lourd et c'est lugubre. Hein?
Exactement.
Même on y reviendra dans l'imagerie, puis pourquoi on associe tout ça au satanisme. Mais on l'a nommé à quelques reprises, ben, écoutons-le. Black Sabbath et son chanteur Ozzy Osbourne, hein? Paranoid, en septembre 1970. Ici de Ozzy Osbourne, caractéristique donc de ce groupe Black Sabbath. On entend bien sûr l'influence du blues là-dedans, quoique c'est joué plus rapide, plus fort aussi, plus lourd, hein, justement. Le fait que ça se joue fort, ça, on l'entend depuis le début dans toutes les archives. Tous ceux qui aiment le métal aiment ça fort. C'est vraiment une musique qui crache les décibels. C'est vraiment quelque chose qui définit le métal, non?
Oui. Et non.
Oui et non?
Bien, ça définit le métal, effectivement. Mais bon, dans mon expérience personnelle, je parle avec plusieurs musiciens, avec plusieurs amateurs qui vont dire souvent que c'est pas nécessairement mieux quand c'est fort. Mais c'est probablement aussi une nouvelle conscientisation par rapport au fait qu'on a une paire d'oreilles dans notre vie, puis ça serait
oui.
peut-être bien qu'on la scrappe pas.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a tout ce courant-là aussi. Et le fait aussi que ben, la génération des musiciens qui était super populaire dans les années 80, ben, aujourd'hui, ils sortent beaucoup dans les médias pour dire « Hey, j'ai de la misère avec mes oreilles.
Mm-hmm. »
Donc, c'est sûr que le fait qu'on en parle plus, ça augmente la conscientisation. Mais bon, si on enlève la considération... on va dire de la
oui,
santé.
La santé, santé publique, hein? Ben oui, parce
oui,
que c'est vrai.
Effectivement, là, ça définit le son lui-même, le fait que ça soit très fort, effectivement.
Oui. Ben, d'autant plus, vous le dites, ceux qui étaient là dans les années 70-80, justement, ont peut-être poussé le bouchon un petit peu plus. Hein?
Effectivement.
Si bien qu'on s'en inquiétait, en tout cas au début des années 80, le fait que ça soit extrêmement fort, on l'a entendu un petit peu plus tôt en introduction. Un exemple ici, à nouveau, contre-champ à notre télé en 1983.
La musique heavy metal rock est tellement forte que nous avons demandé à des spécialistes d'assister au spectacle d'Iron Maiden pour mesurer la puissance du son.
Les gens qui assistent ce soir à ce spectacle, ils vont possiblement noter à la sortie une baisse de leur oui, une baisse d'audition.
Ça peut prendre combien de temps avant de s'en remettre complètement?
Il faut s'accorder une bonne période de repos dans un endroit calme, à la maison. Et cette période de repos peut durer de 24 à 48 heures.
Oui, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on s'accordait la période de repos, mais oui, c'est vrai que ça se jouait très, très fort dans les concerts, si bien qu'à certains endroits, il y a eu des législations même. Hein. Alors, non seulement ça se joue fort, mais ceux qui ont vécu le début des années 80 s'en souviennent, on associait beaucoup le heavy à la violence, hein, au satanisme même. Vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt. Alors, pourquoi ce lien de Satan, de musique du diable et de heavy?
Ben en fait, il y a un gros courant là, dans les années 1970 de, on va dire, de rejet des structures traditionnelles, donc de l'Église. Même dans les années 1960, là, ça débute déjà à ce moment-là. Et on s'intéresse beaucoup à l'occulte. On va dire même dans la culture populaire, on pense aux films d'horreur qui commencent à être un petit peu plus populaires. Donc, il y a ce gros intérêt-là vers l'occulte, vers d'autres types de religions, de croyances, les mouvements Nouvel Âge, là, ça débute aussi à ce moment-là. Et il y a aussi une frange de la population, des jeunes, qui vont se tourner vers d'autres types de croyances. Et c'est là que le satanisme va croître un peu plus. Il y a même l'Église satanique, c'est pas nécessairement des jeunes qui l'ont créé, là, mais Danton LaVey qui va être créé aux États-Unis. Tout ça, ça va influencer beaucoup là, la création d'une musique qui va utiliser ces sujets-là. Puis c'est aussi une manière un peu de transgresser l'ordre établi, d'aller plus loin. Quand je parle de transgression, je parle de toutes les normes qui sont socialement établies qu'on va chercher sciemment à repousser pour déranger le plus possible. Donc, le premier satanisme, si on peut dire, qui a été utilisé dans la musique, c'était vraiment pour déranger.
On
croyait pas nécessairement à Satan, là.
Non, c'est une musique qui... il fallait repousser les limites puis choquer les adultes aussi, parce qu'on en revient à ça, à l'origine, musique créée par des jeunes, donc choquer les parents. Un exemple ici, encore une fois, cette émission, épisode spécial de Contre-champ 1983, suivi du groupe Voivode, célèbre formation métal de Jonquière, bien connue en octobre 1986.
Les amateurs de musique heavy metal, la plupart des jeunes entre 15 et 25 ans, achètent les chandails, les disques, toutes sortes de gadgets qui exploitent autant l'horreur, la guerre, la mort, le démon, que le sang, la torture et la magie noire.
J'aime ça, quelque chose de violent, là, puis que, en tout cas, le rythme, tu sais, quand tu parles du démon, plein d'affaires de même, j'aime ça.
Bon, je trouve ça entraînant, peut-être violent un peu, mais je trouve ça entraînant.
Es-tu violent, toi, en dehors de la musique?
Oui, puis non, ça dépend.
Ça te stimule? Est-ce que ça te stimule à la violence?
Ça, non. Disons, moi, ça me relaxe.
Michel Brazeau et Jacques Côté produisent la plupart des spectacles du genre à Québec.
Et le diable, la mort, le sang, la violence, ouvre la TV, c'est ça que tu vois à journée longue. Et c'est pas uniquement réservé au heavy metal. Ça, je pense que la vie dans les années 80, 70, tout ce que tu voudras, c'est ça.
Une bombe atomique ou un accident nucléaire, c'est plus l'enfer que n'importe quel diable ou n'importe quelle niaiserie satanique que les heavy metal aiment à parler.
Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont déjà vu Satan, s'il y en a déjà eu d'ailleurs. Donc, c'est un moment donné, après 3-4 compositions, ça tourne autour du même sujet. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là.
À propos des musiciens de Voivode, de célèbre formation métal de Jonquière au Québec, donc en octobre 1986. On a l'impression que les années 80, parce que la plupart de nos archives datent justement des années 80, c'est un peu l'âge d'or du métal. Est-ce que je me trompe?
Bien, ça dépend encore une fois dans quelle région et dans quel... on parle de quel style.
Oui.
Effectivement, dans les années 1980, il y a un gros boom. Donc, il y a la New Wave of British Heavy Metal en Grande-Bretagne qui va vraiment prendre énormément d'essor. On parle ici de Iron Maiden principalement.
Là. Oui, le grand groupe.
Oui, effectivement. Après ça, tout s'enclenche extrêmement vite. Il y a comme une diversification des styles métal très grande. Il va y avoir le thrash metal qui va apparaître quelques années plus tard, plus à ce moment-là aux États-Unis. Donc, avec Slayer, par exemple, qui vient de la Californie. Dans la même région, on va voir naître le glam metal qui va être à la radio énormément. Donc, les cheveux crêpés, spandex et tout ça.
Motley Crue.
Motley Crue, hein? Effectivement.
Ouais. Poison et compagnie. Là.
Et là, très rapidement, il va encore avoir une autre radicalisation parce que là, peut-être que les fans de metal vont trouver que c'est un petit peu trop commercial. On va retourner vers...
dans les balades. Hein?
Effectivement. On va voir la naissance du death metal, encore une fois, dans le sud des États-Unis, en Floride. Ben là, il va avoir, encore une fois, là, une musique plus rapide, beaucoup plus underground. Cette fois-là, ça passe par la radio.
Oui, oui, oui. Parce que bon, on repousse à chaque fois les limites. Donc, plus rapide, plus fort, plus choquant peut-être. Mais j'en reviens au trash metal, hein, avec l'émergence de ce qu'on va appeler le Big Four, les quatre grands, Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. C'est quoi le trash metal?
On va prendre des éléments du heavy metal et on va ajouter à ça des éléments de la musique punk, hardcore. Ça va être une musique effectivement plus rapide que le heavy metal et peut-être un peu plus simple que, par exemple, Iron Maiden avec la voix de type opératique, puis les solos, puis beaucoup de guitare. Bon, on va retourner à la simplicité de la réalisation sonore aussi, puisque ça va être une musique peut-être un petit peu moins fignolée dans la réalisation sonore, le côté du son plus rough un peu. Donc, c'est pas mal ça.
Une musique qui frappe, hein, qui bûche, comme on disait au Québec. Hein. Au sommet du Big Four, justement, les rois incontestés, encore à ce jour, l'un des plus grands groupes de la planète, Metallica, Master of Puppets, 1986. Le métal, c'est aussi une esthétique, une façon de s'habiller, ce qu'on appelle communément les métalleux. Alors, comment se développe l'esthétique, l'imagerie du métal?
Bien, si on regarde des images de Black Sabbath au début des années 1970, on ne reconnaît pas nécessairement l'esthétique métal. Hein. Ils n'ont pas des chandails avec des groupes de métal, en fait.
Non, c'est
les premiers.
C'est vrai. Il y avait des chandails blancs.
Exactement. Hein? Exactement. Des chandails blancs, des jeans, quelque chose de très standard, mais ils ont quand même des petits éléments qui commencent à ajouter des croix un peu. Donc, le look metal va s'affirmer de plus en plus. Il y a Judas Priest qui a apporté énormément, avec Rob Halford qui a apporté l'esthétique motard, veste de cuir et tout ça.
Bon, ça venait... Gants cloutés ou...
Gants cloutés, exactement. Ouais. Bon, après ça, on peut penser aussi que le punk a influencé aussi l'esthétique metal. Donc, avec les vêtements, les jeans déchirés, tout ça embarqué un peu dans l'esthétique. On ajoute à ça les cheveux très longs, qui est souvent associé à la force, la virilité. Et j'ajouterais peut-être aussi tout ce qui est l'esthétique gothique, la mode gothique des années 80. Ça aussi, ça l'a amené énormément dans le look métal.
Oui, avec aussi l'imagerie qui vient avec et ceux peut-être qui trônent au sommet en la matière sont Iron Maiden, les fameuses pochettes de disques, la célèbre mascotte Eddie. On va les écouter justement. Iron Maiden, Number of the Beast.
Moi, je ne veux pas truger, pas du tout. Sauf que c'est remarquable, les gens qui achètent cette musique-là, c'est des gens aussi qui sont durs pour eux, qui sont durs dans leurs sentiments, qui vivent des questions difficiles. Comme ceux qui achètent la musique disco, ils sont pareils aussi. L'habillement va avec la musique qu'on écoute. Hein. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Hein. C'est un peu ça. T'sais. Puis les jeunes, moi, je pensais, la semaine dernière, il y a des gens, il y a des femmes qui viennent ici et qui trouvent ça difficile. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Mon petit gars, il écoute cette musique-là. On écoutait les Beatles dans ce temps-là. Tu sais, les Beatles, c'était aussi peut-être...
C'était dérangeant aussi.
C'était dérangeant. Sauf que tout le monde écoutait les Beatles, on n'avait pas le choix. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une minorité, ça. Moi, je pense que le heavy metal, ça a encore quelques années, ça va être fini. T'sais, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Là,
c'est associé à une mode pour vous.
Ben, une mode... puis je pense que ça va changer, ça va changer. Il va peut-être avoir d'autres sortes de musique pour correspondre à ce que vivent les gens, là, les gens des quartiers plus durs, là, plus populaires. T'sais. Mais cette forme de musique-là, moi, en tout cas, j'espère qu'il n'y en a pas pour bien des années.
Oui, malheureusement, pour Gilles Defoy, qu'on entendait ici dans un reportage à Québec en 1985, le métal, on le sait, s'est imposé durablement et ça n'a rien, absolument rien d'une mode passagère. Ça fait plusieurs extraits qu'on entend de Québec. Hein? Alors, pourquoi le Québec et la ville de Québec sont un terreau fertile pour le métal? Pourquoi ça marchait tant ici?
Effectivement, le métal est très fort au Québec et ça a même été prouvé statistiquement.
Ah oui?
Oui, il y a un professeur de l'Université de Montréal en études de l'industrie des jeux vidéo qui s'appelle Dominique Arsenault. En 2013, il s'était amusé à faire une petite comparaison entre le nombre par 100 000 habitants de groupes métal au Québec. Parce que ces études-là comparatives avaient été faites avec les nombres, mais pour le Canada au complet. Mais lui, il a regardé avec le Québec. Qu'est-ce que c'est? Et il en est venu à des chiffres super intéressants. En fait, il en est venu à dire qu'il y avait peut-être à peu près 12 groupes de métal par 100 000 personnes. Ça, ce chiffre-là paraît un peu anodin, mais avec ce chiffre-là, on passe en avant de l'Allemagne, de l'Australie et des États-Unis. Et quand on rajoute tout le Canada, on descend à 7 groupes par 100 000 personnes. Bon, on est quand même loin du 56 groupes par 100 000 personnes de la Finlande, là.
Oui,
mais bon.
Oui. Parce que les pays scandinaves, c'est vraiment le terreau fertile.
C'est autre chose,
hein? Oui, c'est autre chose.
Mais au Québec, oui, effectivement, il y a énormément de groupes et il y a plusieurs personnes qui se sont demandé pourquoi. Mm-hmm. Et en fait, le métal est souvent très présent dans les endroits où les identités ont été contestées, on va dire. Le métal, en fait, c'est un véhicule qui permet un peu de lutter contre les pressions du conformisme, les injustices ou l'autorité politique.
Oui. On en est où aujourd'hui avec le métal? Est-ce que la musique a encore la cote? Est-ce que les vieux thèmes, le satanisme et tout ça, c'est encore la cote dans le métal?
Oui et non. En fait, il y a énormément de nouveaux thèmes qui sont apparus et bon... Tous les thèmes en lien avec l'identité, la culture ancestrale ont pris énormément de place. Ça a été très influencé par les pays scandinaves, donc nord-européens. Et il y a aussi plein de courants qui sont apparus. Je pense, par exemple, ces dernières années au post-black metal. Donc,
on est un peu plus loin. On est dans le black metal, mais... Post-black metal.
Oui, vraiment, on est dans le post maintenant. Donc, c'est un black metal qui va avoir une conscientisation, on va dire même écologique. Là.
Oui.
On va être dans ces thèmes-là. On va dire la communion avec la nature. C'est très, très différent.
Oui, visiblement.
Oui, en tout cas. Et des fois, un peu mal vu là, par, on va dire, les vieux routiers du métal.
Oui, qui avaient d'autres préoccupations. Musique où on chantait, entre autres choses, le satanisme, mais pas que ça. Ben, on va se laisser justement avec un classique du métal. Ace of Spades, Motorhead, c'était en 1980. On va se laisser là-dessus. Mon invité, je rappelle, Mira Saint-Laurent, présidente de la Société québécoise de recherche en musique et chroniqueuse musicale pour Ars Media, docteur en musicologie et spécialiste du métal, autrice d'une thèse portant sur le black metal au Québec. Merci d'avoir été là.
Bien, merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.